Chapitre 12. Des mœurs et conditions de Panurge. Panurge était de stature moyenne, ni trop grand ni trop petit, et avait le nez un peu aquilin, fait à manche de rasoir. Et pour lors, était de l'âge de 35 ans environ, fin adoré comme une dague de plomb, bien galant homme de sa personne, sinon qu'il était quelque peu paillard, et sujet de nature à une maladie qu'on appelait en ce temps-là faute d'argent. Ses douleurs non pareilles. Toutefois, il avait 63 manières d'en trouver toujours à son besoin, dont la plus honorable et la plus commune était par façon de larcin furtivement fait, malfaisant, batteur de pavés, ribleur s'il y en avait en Paris. Et toujours machiner quelque chose contre les sergents et contre le guet. À l'une fois, il assemblait 3 ou 4 de bons rustres et les faisait boire comme templiers sur le soir. Et après, les menait au-dessous de Sainte-Geneviève ou auprès du collège de Navarre, et à l'heure que le guet montait par là, ce qu'il connaissait en mettant son épée sur le pavé et l'oreille au pré, et lors qu'il ouillait son épée branlée, c'était signe infaillible que le guet était prêt. À l'heure, donc, lui et ses compagnons prenaient un tombereau et lui baillaient le branle, le ruant de grand force contre la vallée, et ainsi mettaient tout le pauvre guet par terre comme porc, et puis s'enfuyaient de l'autre côté. Car en moins de 2 jours, il sut toutes les rues, ruelles et traverses de Paris comme son Deus Dett. À l'autre fois, il faisait en quelque belle place par où le diguet devait passer une traînée de poudre de canon. Et à l'heure que le guet passait, il mettait le feu dedans, et puis prenait son passe-temps à voir la bonne grâce qu'ils avaient en s'enfuyant, pensant le feu Saint-Antoine l'éteint aux jambes. Et au regard des pauvres maîtres, aux arts et théologiens, il les persécutait sur tous autres, quand il rencontrait quelqu'un d'entre eux par la rue. Jamais ne fallait de leur faire quelque mal. Maintenant, leur mettant un estron dedans leur chaperon à bourrelet. Maintenant, leur attachant petite queue de renard ou des oreilles de lièvre par derrière, ou quelque autre mal. Et un jour, que l'on avait assigné à tous les théologiens de se trouver en Sorbonne pour examiner les articles de la foi, il fit une tartre bourbonnaise composée de force de ail, de galbanum, de asafoetida, de castoreum, d'estron tout chaud, et la détrempit de sani de bosse chancreuse, et de fort bon matin engraissa et oignit théologalement tout le treillis de Sorbonne, en sorte que le diable n'y eût pas duré. Et tous ces bonnes gens rendaient là leur gorge devant tout le monde, comme s'ils eussent écorché le renard, et en mourut 10 ou 12 de peste, mais ils ne s'en souciaient pas. Et en son sail, il y avait plus de 26 bougettes et fasques toujours pleines, l'une d'un petit dos de plomb et d'un petit couteau affilé comme une aiguille de pelletier dont il coupait les bourses, l'autre de hagrets qu'il jetait aux yeux de ceux qu'il trouvait, l'autre de glaterons empennés de petites plumes de oison ou de chapon, qu'il jetait sur les robes et bonnets des bonnes gens. Et aucune fois leur en faisait de belles cornes qu'il portait par toute la ville, aucune fois toute leur vie. Aux femmes aussi, par-dessus leurs chaperons ou derrière, aucune fois en mettait fait en forme d'un membre d'homme. Et l'autre, un tas de cornets tout plein de puces et de poux, qu'il empruntait des guenots de Saint-Innocent et les jetait à tout belles petites cannes ou plumes dont on écrit sur les collets des plus sucrées damoiselles qu'il trouvait, et mêmement en l'église, car jamais ne se mettait au cœur au haut, mais toujours demeurait en la nef entre les femmes, tant à la messe, à vêpres comme au sermon. En l'autre, force provision de hain et claveaux, dont il accouplait souvent les hommes et les femmes, en compagnie où ils étaient serrés. Et mêmement, celles qui portaient robes de taffetas armoisies et à l'heure qu'elles se voulaient départir, elles rompaient toutes leurs robes. En l'autre, un fusil garni d'esmourches, d'allumettes, de pierres à feu et tout autre appareil à ce requis. En l'autre, deux ou trois miroirs ardents, dont ils faisaient enrager aucune fois les hommes et les femmes, et leur faisaient perdre contenance à l'église, car ils disaient qu'il n'y avait qu'un antistrophe entre femmes folles à la messe et femmes molles à la fesse. En l'autre avait provision de fils et d'aiguilles dont il faisait mille petites diableries. Une fois, à l'issue du palais, à la grande salle, qu'un cordelier disait sa messe de messieurs, il lui aida à soi habiller et revêtir. Mais en l'accoutrant, il lui cousit l'aube avec sa robe et chemise, et puis se retira, quand messieurs de la cour se vinrent asseoir pour ouïr messe. Mais quand ce fut alité missaès, que le pauvre frater se voulut dévêtir son aube, il emporta ensemble les habits et chemises qui étaient bien cousus ensemble, et se rebrassit jusqu'aux épaules, montrant son calibisserie à tout le monde, qui n'était pas petit, sans doute. Et le frater toujours tiroit, mais tant plus se découvrait-il, jusqu'à qu'un des messieurs de la cour dit « Eh quoi, ce beau-père nous veut ici faire l'offrande et baiser son cul ?» Le feu Saint-Antoine le baise. Et dès lors fut ordonné que les pauvres bites pérès ne se dépouilleraient plus devant le monde, mais en leur sacrifice, mêmement quand il y aurait des femmes, car ce leur serait occasion de pécher du péché d'envie. Et le monde demandait « Pourquoi est-ce que ces fratères avaient la couille si longue ?» Mais le dit Panurge soulut très bien le problème. « Disant ce que fait les oreilles des ânes si grandes, ce n'est sinon parce que leur mère ne leur mettoit point de béguin en la tête, comme dit de Aliaco en ses suppositions. À pareille raison, ce que fait la couille des pauvres baies à père tant Saint-Antoine large, c'est qu'ils ne portent point de choses foncées, et leur pauvre membre s'étend à sa liberté à bride avalée, et leur va ainsi tribalant sur les genoux, comme font les patenôtres aux femmes. Mais la cause, pourquoi ils l'avaient gros à l'équipolant? C'était que, en ce tribalement, les humeurs du corps descendent aux dix membres, car selon les légistes, agitation et motion continuelle est cause de attraction. Item avait un autre poche, toute pleine de halins de plumes, dont il jetait dedans le dos des femmes, qu'il voyait les plus accrestées, et les faisait dépouiller devant tout le monde. Les autres dansaient comme yo sur braise ou bille sur tambour. Les autres coururent les rues, et lui après courait. Et à celle qui se dépouillait, il mettait sa cape sur le dos, comme homme courtois et gracieux. Item, en un autre, il avait une petite gueudoufle, pleine de vieille huile, et quand il trouvait ou homme ou femme qui lui semblissent bien glorieux et qui eussent quelques belles robes, il leur engraissait et gâtait tous les plus beaux endroits de leur habillement, sous le semblant de les toucher et dire « Voici de bons draps, voici bon satin, bon taffetas. Madame Dieu vous doit ce que votre noble cœur désire. Vous avez robe neuve, nouvelle amie, Dieu vous y maintienne. » Et ce disant, leur mettait la main sur le collet, et ensemble, la mâle tâche y demeurait perpétuellement, que le diable n'eût pas ôté. Puis à la fin leur disait « Madame, donnez-vous garde de tomber, car il y a ici un grand trou devant vous. » En un autre avait tout plein de euphorbes pulvérisés bien subtilement, et là-dedans mettait un mouchenet beau et bien ouvré qu'il avait dérobé à la belle lingère des galeries de la Sainte-Chapelle, en lui ôtant un pou dessus son sein, lequel toutefois il y avait mis. Et quand il se trouvait en compagnie de quelques bonnes dames, il leur mettait su propos de lingerie et leur mettait la main au sein, demandant « Et cet ouvrage est-il de Flandre ou de Hainaut ?» Et puis tirait son mouchenet, disant « Tenez, tenez, vois ainsi de l'ouvrage, elle est de Fonterrabie. » Et le secouait fort bien à leur nez, et les faisait éternuer 4 heures sans repos. Et cependant, il pétait comme un roussin, et les femmes se riaient, lui disant « Comment ? Vous pétez, Panurge ?»« Non, foi, disait-il, madame, mais j'y accorde au contrepoint de la musique que sonnait du nez. » En l'autre, un davier, un pélican, un crochet, et quelques autres ferments dont il n'y avait porte ni coffre qu'il ne crocheta. En l'autre, tout plein de petits gobelets, dont il ouillait fort artificiellement, car il avait les doigts faits à la main comme Minerve ou Arachné, et avait autrefois crié le thériacle. Et quand il changeait un téton ou quelque autre pièce, le changeur n'eût été plus fin que Maître Mouche, si Panurge n'eût fait évanouir à chacune fois 5 ou 6 grands blancs visiblement, apertement, manifestement, sans faire lésion ni blessure aucune, dont le changeur n'en eût senti que le vent. Un jour, je le trouvai quelque peu écorné et taciturne, et me doute bien qu'il n'avait de nard, dont je lui dis « Panurge, vous êtes malade à ce que je vois à votre physionomie, et j'entends le mal, vous avez un flux de bourse. Mais ne vous souciez, j'ai encore 6 sols et mailles, qui ne virent onc père ni mère, qui ne vous vaudront non plus que la vérole en votre nécessité. » À quoi il me répondit « Hébrin pour l'argent, je n'en aurai quelques jours que trop, car j'ai une pierre philosophale qui m'attire l'argent des bourses, comme l'aimant attire le fer. Mais voulez-vous venir gagner les pardons ? » dit-il. Et par ma foi, je lui réponds, je ne suis pas grand pardonneur en ce monde ici, je ne sais si je le serai en l'autre. Eh bien, allons au nom de Dieu, pour un denier, ni plus ni moins. Mais, dit-il, prêtez-moi donc un denier à l'intérêt. Rien, rien, dis-je. Le vous donne de bon cœur. Grates vobis dominos, dit-il. Ainsi à l'âme commençant à Saint-Gervais, et je gagne les pardons au premier tronc seulement, car je me contente de peu en ces matières. Et puis me mis à dire mes menus suffrages et oraisons de Sainte Brigide. Mais il gagna tous les troncs, et toujours baillait argent à chacun des pardonnaires. De là, nous transportâmes à Notre-Dame, à Saint-Géan, à Saint-Antoine, et ainsi des autres églises où avait banque de pardon. De ma part, je n'en gagnais plus, mais lui, à tous les troncs, il baisait les reliques, et à chacun donnait. Bref, quand nous fûmes de retour, il me mena boire au cabaret du château, et me montra 10 ou 12 de ses bougettes pleines d'argent. À quoi je me saignis, faisant la croix, disant « Dont avez-vous tant recouvert d'argent en si peu de temps ?» À quoi il me répondit qu'il l'avait pris des pardons, car en leur baillant le premier denier, dit-il, je le mis si souplement qu'il sembla que fût un grand blanc. Par ainsi, d'une main, je prins 12 deniers, voire bien 12 liards, ou double pour le moins, et de l'autre, 3 ou 4 douzains, et ainsi par toutes les églises où nous avons été. « Voire mais, dis-je, vous vous damnez comme une sarpe, et être larron et sacrilège. » Oui bien, dit-il, comme il vous semble, mais il ne me le semble pas quant à moi, car les pardonnaires me le donnent, quand ils me disent en présentant les reliques à baiser, cantu plum a qui pièce, que pour un denier, y en prenez 100. Car a qui pièce est, dit, selon la manière des Hébreux, qui vient du futur en lieu de l'impératif, comme avait en la loi, Dominum Deum tuum adorabis et illi foli servis, diliges proximum tuum et sic de aliis. Ainsi, quand le pardonnigère me dit « Cantu plum accipies », il veut dire « Cantu plum accipe ». Et ainsi, l'exposé Rabbi Kimi et Rabbi Aben Erza et tous les massorettes. Et davantage, le pape Six me donna 1500 livres de rente sur son domaine et trésor ecclésiastique, pour lui avoir guéri une bosse chancreuse, qui tant le tourmentait, qu'il en cuida devenir boiteux toute sa vie. Ainsi je me paie par mes mains. car il n'est-elle sur le dit trésor ecclésiastique. « Oh, mon ami, disait-il, si tu savais comment je fis mes choux gras de la croisade, tu serais tout ébahi. Elle me valut plus de 6 000 florins. Et où diable sont-ils allés ? Dis-je, car tu n'en as pas une maille. Dont ils étaient venus, dit-il, ils ne firent seulement que changer de maître. Mais j'en employai bien 3 000 à marier, non pas les jeunes filles, car elles ne trouvent que trop mari, mais de grands vieilles sempiternelles qui n'avaient dents en gueule. Considérant, ces bonnes femmes ici ont très bien employé leur temps en jeunesse et ont joué du serre-croupière à cul levé à tout venant, jusqu'à ce qu'on n'en voulût plus. Et par Dieu, je les ferai saccader encore une fois devant qu'elles meurent. Et par ainsi, à l'une donner 100 florins, à l'autre 620, à l'autre 300, selon qu'elles étaient bien infâmes, détestables et abominables. Car d'autant qu'elles étaient plus horribles et exécrables, d'autant il leur fallait donner davantage. Autrement, le diable ne les eût pas voulu besogner. Incontinent, je m'en allais à quelques porteurs de coutrés gros et gras, et faisais moi-même le mariage. Mais premier que lui montraient les vieilles, je lui montrais les écus, disant « Compère, voici qui est à toi si tu veux frintin-frottailler un bon coup. » Dès lors, les pauvres hères haraissaient comme vieux mulets, et ainsi leur faisaient bien apprêter et banqueter, et boire du meilleur et force épicerie pour mettre les vieilles en appétit et en chaleur. Fin de compte, ils besognaient comme toute bonne âme, sinon que à elles qui étaient horriblement vilaines et défaites, je leur faisais mettre un sac sur le visage. Davantage, j'en ai perdu beaucoup en procès. « Et quel procès as-tu pu avoir ? » disais-je. « Tu ne as ni terre ni maison. »« Mon ami, » dit-il, « les demoiselles de cette ville avaient trouvé par instigation de diable d'enfer une manière de coller ou cache-cou à la haute façon qui leur cachait si bien les seins que l'on n'y pouvait plus mettre la main par-dessous. Car la fente d'isse, elles avaient mise par derrière. » Et était tout clos par devant, dont les pauvres amants dolents contemplatifs n'étaient pas bien contents. Un beau jour de mardi, j'en pressentais requête à la cour, me formant partie contre les dites damoiselles et remontrant les grands intérêts que je prétendais, protestant que, à même raison, je ferais coudre la braguette de mes chaussons derrière, si la cour n'y donnait ordre. Somme toute, les demoiselles formèrent syndicat et passèrent procuration à défendre leur cause. Mais je les poursuivis si vertement que par arrêt de la cour, il fut dit que ces hauts cache-cou ne seraient plus portés, sinon qu'ils fussent quelque peu fendus par devant. Mais il me coûta beaucoup. J'eus un autre procès, bien ordre et bien sale, contre maître Fifi et ses suppôts. À ce qu'ils n'eussent point à lire clandestinement les livres de sentence de nuit, mais de beau plein jour, et ce, aux écoles de Sorbonne, en face de tous les théologiens, où je fus condamné aux dépens pour quelques formalités de la relation du sergent. Une autre fois, je formai complainte à la cour contre les mules des présidents, conseillers et autres, tendant afin que, quand en la basse-cour du palais l'on les mettoit à ronger leurs freins, que les conseillères leur fissent de belles bavrettes, afin que de leurs baves elles ne gastassent point le pavé, en sorte que les pages du palais pussent jouer dessus à bauder ou à renigue-dieu à leur aise, sans y rompre leurs chausses aux genoux. Et de ce, en eut bel arrêt, mais il me coûte bon. Or, sommez à cette heure combien me coûtent les petits banquets que je fais aux pages du palais de jour en jour.
« Et à quelle fin ? » dis-je.
« Mon ami, dit-il, tu n'as nul passe-temps à ce monde, j'en ai moi plus que le roi. Et si tu voulais te rallier avec moi, nous serions diables. » « Non, non, dis-je par saint Adoras, car tu seras une fois pendu. « Et toi ? Dit-il. « Tu seras une fois enterré. Lequel est plus honorable, ou l'air ou la terre ?
Mais grosse pécore, Jésus-Christ ne fut-il pas pendu en l'air? Mais à propos, cependant que ces pages banquettent, je garde leur mule, et toujours je coupe à quelqu'une l'étrivière du côté du montuaire qu'elle ne tient qu'à un filet. Et quand le gros enflé de conseiller ou autre a pris son branle pour monter dessus, il tombe, tout plat comme porc devant tout le monde, et apprête à rire pour plus de 100 francs. Mais je me ris encore davantage, c'est que eux, arrivés au logis, ils font fouetter monsieur Dupage comme seigle vert. Par ainsi, je ne plains point ce que m'avait coûté aller banqueter. Fin de compte, il avait, comme j'ai dit dessus, 60 et trop manières de recouvrer l'argent. Mais il en avait 214 de le dépendre, hormis la réparation de dessous le nez.